Alors il y a un enjeu de négociation et d'acceptation de la réciprocité qui est au cœur de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on peut former quelques espoirs que la situation s'améliore quelque peu. Si ça ne l'est pas, je pense qu'il faut procéder à des parachutages de vivres, car la situation à Madaya est absolument catastrophique. Les médecins, par exemple, avec lesquels Médecins Sans Frontières est en contact, n'ont pas mangé ou n'ont quasiment rien mangé depuis plus d'une semaine.
Le chef des opérations humanitaires de l'ONU prévoyait des évacuations à Madaya, des évacuations de civils. Savez-vous ce qu'il en est ?
Non, je ne le sais pas. Je sais seulement que il y a environ 300 blessés sérieux qui attendent des soins autres que les premiers soins d'urgence qui ont été délivrés et qu'il faudrait évacuer parce qu'ils ne pourront pas être soignés à Madaya. Mais je sais que ces 300 blessés font partie de la population que les Nations Unies et la Croix-Rouge veulent évacuer, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne crois pas qu'au moment où nous parlons, cela ait déjà été le cas.
Que peut faire Médecins Sans Frontières dans l'actuelle Syrie ?
Malheureusement, assez peu de choses. Nous soutenons des hôpitaux dans les régions qui échappent au contrôle de Daesh, donc dans celles qui sont sous le contrôle de la rébellion au sens beaucoup plus large. Nous n'avons pas été admis à travailler dans les zones contrôlées par le gouvernement pour des raisons qui ne nous ont jamais été données. Du coup, on ne travaille pas dans les zones gouvernementales. En revanche, on travaille dans les zones de l'opposition non-État islamique. Parce qu'il n'est pas possible de travailler dans les zones contrôlées par l'État islamique, la chape qui est exercée sur la population et les intervenants est bien trop lourde et on n'a aucune liberté d'action, aucun contrôle sur ce qu'on fait, aucun moyen de cibler nos interventions, de prendre soin de ne pas le laisser échapper dans les poches des gens à qui elle n'est pas destinée. Voilà pourquoi on travaille que dans, disons, un petit quart de la Syrie. Et là, ce sont des aides aux hôpitaux, aux équipes syriennes, par l'envoi de médicaments, de matériel, de façon à leur permettre de travailler. Et puis, le cas échéant, de relayer, qui a été le cas pour Madaya, l'appel que lançaient les médecins locaux, appel pour aide d'urgence face à la famine qui envahit la ville.
Vous êtes connu pour votre rôle dans l'humanitaire. Comment améliorer l'efficacité de l'aide apportée aux victimes de ces conflits armés ?
En général, il y a l'amélioration de l'efficacité technique, c'est-à-dire des équipes pourvues des moyens logistiques et matériels dont elles ont besoin pour bien faire leur travail. Et puis, une crédibilité des organisations humanitaires, de sorte que leur poids moral joue en faveur de la constitution d'un espace de travail libre à l'intérieur duquel les équipes humanitaires puissent accomplir leurs tâches. Il y a des endroits, malheureusement, où ces généralités ne valent rien parce que, par exemple, en Syrie, le nom de Médecins Sans Frontières n'a absolument pas poussé les autorités à nous ouvrir un espace de travail. Et de ce fait, on bricole, c'est-à-dire on envoie des médicaments qui sont de qualité, des équipements qui sont appropriés. Et en ce sens-là, on essaye de maintenir un niveau de qualité raisonnable. Mais enfin, tout ça se fait à distance, au prix de beaucoup de risques.
Nous savons que les ONG sont souvent les seules à pouvoir accéder donc aux zones reculées, nous en avons parlé plus tôt. Sont-elles aussi des médiateurs dans le dialogue avec les rebelles en Syrie ?
Non, pas du tout. Il n'y a aucune activité de médiation, en tout cas de la part des ONG humanitaires. Il y a dans le vaste monde des ONG, certaines d'entre elles qui sont consacrées à cela. Une des plus célèbres d'entre elles, c'est la communauté Sant'Egidio, qui est une, contrairement à ce que son nom indique, qui est une forme d'ONG qui a organisé avec certains succès ou des échecs, des médiations au Mozambique, en Algérie, enfin parfois une diplomatie privée peut être judicieuse comme forme de relais entre deux étapes de diplomatie plus gouvernementale.